de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Comment allez-vous? Vous êtes avec moi, Audrey. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie de la Radio République Indonésia, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour le moment de fin d'année, nous allons vous présenter un programme spécial de Kaléidoscope Général et un certain nombre de programmes et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le Kaléidoscope Général. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Passons à septembre. Le 3 septembre, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, a signé un accord avec une société australienne de l'industrie du minerai de fer, Fortescue Metals Group, pour développer les énergies renouvelables pour soutenir l'industrie verte. La signature a été réalisée par le ministre de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, et le fondateur de Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, à Jakarta. Toujours à la même date, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présidé la réunion ministérielle virtuelle sur la politique étrangère et la santé mondiale, FPGH. Au cours de la réunion, la ministre Retno Marsudi a fait part de trois choses liées au secteur de la santé. Premièrement, l'importance de la coopération mondiale pour garantir un accès égal et équitable aux vaccins.
Yang kedua, pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat.
Deuxièmement, l'importance de la gouvernance ou d'un système de santé mondial solide. Les pays FPGH doivent renforcer l'OMS, en particulier en ce qui concerne la capacité à effectuer un dépistage précoce et à répondre aux futurs défis de santé mondiale. Cependant, la dernière chose que la ministre Retno a dit était de bâtir un système de santé national solide dans chaque pays. Lors d'une téléconférence le 4 septembre, la ministre Retno espère également que la FPGH pourra devenir un moteur pour renforcer l'esprit de coopération et de collaboration internationale face à la pandémie de COVID-19. Elle a déclaré que la réunion a réuni 7 ministres des pays de la FPGH, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Indonésie, la France, la Norvège, le Sénégal et la Thaïlande, ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le 7 septembre, plusieurs 297 réfugiés rohingyas, dont 14 enfants, ont été bloqués dans les eaux d'Aceh, précisément à la plage Ujong Blang, district Banda Sakti, ville Lok Semawe. Ils ont été secourus par des pêcheurs et tirés à terre. Le commandant de la base navale de Lok Semawe, le lieutenant-colonel de marine M. Dimi Umri, a déclaré à la Radio République Indonésia RRI que tous les réfugiés bloqués avaient été sécurisés et qu'ils étaient en bonne santé. Le 11 septembre, l'Institut de Radio Diffusion Publique LPP, Radio République Indonesia RRI, a commémoré son 75e anniversaire. Le président directeur de LPP RRI, Mohamad Rohanuddin, a déclaré le 10 septembre que l'esprit de lutte est mené pour que RRI puisse continuer à profiter au grand public. Il a expliqué qu'actuellement, le monde est très intéressé par la technologie numérique. Par conséquent, depuis 2013, RRI a construit la technologie numérique avec de multiples plateformes. RRI doit faire toutes les plateformes. L'une des raisons est que RRI est chargée de fournir des renseignements à la communauté. Selon Rohanuddin, toute personne faisant partie de la RRI doit être approchée. RRI doit avoir un moyen d'approcher toutes les plateformes existantes. Par conséquent, RRI ne doit pas être liée à une seule plateforme radio. Le 17 septembre, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasyah, a déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle que la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Bahreïn avec Israël n'affectait pas l'attitude de l'Indonésie envers la Palestine.
Normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan merubah posisi Indonesia dengan Palestina.
La normalisation des Émirats Arabes Unis Israël et Bahrain Israël ne changera pas la position de l'Indonésie sur la Palestine. Pour l'Indonésie, la résolution de la question palestinienne doit respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU liées ainsi que les paramètres convenus au niveau international, y compris la solution de deux États. Faizasyah a ajouté que toutes les initiatives de paix ne devraient pas contrecarrer l'initiative de paix arabe lancée par la Ligue arabe en 2002 et les résolutions d'autres organisations de coopération des pays islamiques. Selon lui, l'Indonésie comprend le désir des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn de fournir un espace aux parties liées pour négocier et changer les approches pour résoudre la question palestinienne par le biais de cet accord. Mais l'efficacité de l'accord dépend fortement d'Israël pour le respecter. Toujours le 17 septembre, le ministre de la Planification du Développement National, chef de l'Agence nationale de planification du développement, Suharto Monoarfa, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Piquet, a lancé un livre sur la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne en 2020, virtuellement à Jakarta. Ce livre résume les efforts déployés pour faire progresser le développement durable afin d'atténuer les effets du changement climatique. Cet ouvrage met également en lumière les différentes réalisations des programmes de développement en Indonésie soutenus par l'Union européenne et ses pays membres. La coopération entre l'Union européenne et l'Indonésie en 2020 a pour thème le renforcement des capacités pour une croissance de l'économie verte. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie a déclaré que le thème avait été retenu parce que les impacts sociaux et économiques de la pandémie devaient être traités par le biais d'un développement environnemental durable.
And why is that important? Because in our view,
pourquoi est-ce important? Parce qu'à notre avis, la récupération post-COVID doit être respectueuse de l'environnement et durable. Parce que pendant que nous combattons la pandémie COVID-19 d'une part, la crise climatique devient plus réelle et sous nos yeux. Cependant, le ministre Suharto a déclaré l'Union européenne était devenue un partenaire de coopération pour l'Indonésie, non seulement avant la pandémie de COVID-19, mais aussi lorsque la pandémie a éclaté en Indonésie. Le 20 septembre, le meuble du bureau du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a remporté un prix prestigieux dans ASEAN Energy Awards 2020. Le bâtiment Heritage et le bâtiment Hyrule Saleh ont remporté le concours de construction éco-énergétique. L'annonce de et l'attribution des lauréats ont été faites lors de la 38e réunion des ministres de l'énergie de l'ASEAN à Da Nang, Vietnam. C'est ce qu'a déclaré le chef du bureau de la communication des services d'information publique et de la coopération au ministère de l'énergie et des ressources minérales, Agung Pribadi, dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta. Agung espère qu'avec ce prix, les bâtiments du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales pourront participer dans ASEAN Energy Awards dans les années à venir. L'édifice Heritage où siège le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales est un édifice historique qui a été rénové en 2016 et transformé en un édifice à consommation énergétique quasi nul. Depuis 2017, 441 panneaux solaires ont été installés pour une capacité totale de 86 kW-peak ou 44,2% de la capacité électrique totale installée. Cependant, le bâtiment Hyrule Saleh ou le bâtiment du bureau du secrétariat général a mis en œuvre le programme de gestion de l'énergie depuis 2016. Le 22 septembre, le vice-président Ma'ruf Amin a virtuellement inauguré le fonctionnement d'Asian Cyber University en tant que première cyber-université d'Indonésie. ASEAN Cyber University est dirigée par le chancelier, le professeur Jang Yun Cho, PhD, de la Corée du Sud. Le professeur Yun Cho est le premier recteur étranger en Indonésie. Dans ses remarques, Ma'ruf Amin a exprimé l'espoir qu'ASEAN Cyber University pourrait fournir un accès équitable et abordable à l'enseignement supérieur et encourager le développement des ressources humaines supérieures en Indonésie. Le 30 septembre, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que l'économie indonésienne devrait commencer à se redresser au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année et que l'accélération se produirait en 2021. Cela a été exprimé par la ministre Sri Mulyani dans un communiqué de presse concernant le budget de l'État pour l'année 2021 virtuellement. Sri Mulyani a déclaré que l'économie de l'Indonésie était projetée dans une fourchette de 5,0%. Selon elle, la gestion de COVID a été l'un des facteurs déterminant la reprise économique.
Faktor-faktor tentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, satu, penanganan COVID.
Les facteurs qui peuvent restaurer l'économie indonésienne, une manipulation du COVID, à la fois à partir de cette année et de l'année prochaine avec la discipline de protocole de santé, seront toujours très déterminants. Plus nous pouvons contrôler grâce à des protocoles de santé, cela aidera à être en mesure de faire face au COVID et en même temps de commencer amene une reprise économique et des activités sociales. Sri Mulyani a ajouté qu'un autre facteur qui déterminera la reprise économique de l'Indonésie l'année prochaine est la disponibilité du vaccin COVID-19. Sri Mulyani a dit que la reprise économique sera également tirée à la fois du côté de la demande et de l'offre. Du côté de la demande, le gouvernement continuera de fournir une assistance sociale pour augmenter le pouvoir d'achat, en particulier à la classe moyenne inférieure qui représente 40% de la population totale de l'Indonésie. Nous passons à octobre. Le 3 octobre, le gouvernement indonésien a exprimé sa gratitude pour la gestion du COVID-19 en Indonésie et le soutien du gouvernement sud-coréen à la protection et à la sécurité des citoyens indonésiens en Corée. Cela a été exprimé par la ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, dans son allocution lors de la commémoration de la fête nationale sud-coréenne qui a eu lieu virtuellement. À cette occasion, la ministre Ida a fait part de diverses collaborations qui se sont progressivement développées dans divers domaines entre l'Indonésie et la Corée du Sud.
Sebagai mitra strategis khusus, kerjasama Indonesia dan Korea telah berkembang secara progresif di berbagai bidang.
En tant que partenaire stratégique spécial, la coopération entre l'Indonésie et la Corée s'est progressivement développée dans divers domaines de l'industrie 4.0, de l'économie, de l'investissement, du commerce, de l'éducation, à l'augmentation des capacités des ressources humaines. Le partenariat entre les deux pays se rapproche même au milieu des défis de la pandémie, à travers diverses collaborations pour faire face au COVID-19. Dans la coopération de main-d'œuvre et de ressources humaines, la ministre de la main-d'œuvre Ida Fauzia apprécie également le rôle du gouvernement de la République de Corée pour aider les travailleurs migrants indonésiens à obtenir un environnement de travail adéquat et l'égalité de traitement. Ida a ajouté que les deux pays se soutiennent mutuellement dans le traitement des problèmes régionaux et mondiaux. Elle a déclaré que l'Indonésie soutient toujours la réalisation de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne par la communication et le dialogue. Toujours à la même date, l'Indonésie, lors de la réunion du G20, a souligné l'importance du vaccin COVID-19 pour devenir un bien public universellement accessible et soutenir le développement de vaccins de qualité, sûrs et efficaces. Comme affirmé l'adjoint à la coopération économique internationale du ministère de la Coordination des Affaires économiques, Rizal Afandi Lukman, dans une déclaration à Jakarta. Rizal, en tant que délégation ou Sherpa G20 Indonésie, en participant à la troisième réunion virtuelle Sherpa G20, a déclaré que l'Indonésie avait mis en œuvre des mesures politiques globales pour faire face à l'impact de la pandémie COVID-19 à l'échelle nationale. La mesure politique vise à protéger la santé publique, à protéger les groupes les plus vulnérables touchés par l'impact, à créer de nouveaux emplois et à restaurer l'économie nationale. À cette occasion, les Sherpas du G20 ont convenu de collaborer pour surmonter l'impact de la pandémie COVID-19, restaurer la croissance économique, créer des emplois et façonner un avenir résilient aux crises. Dans la commémoration du 57e anniversaire des Forces armées nationales indonésiennes TNI, le 5 octobre, TNI a été invité à accroître ses capacités et ses armes pour faire face aux menaces hybrides à savoir la menace des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L'observateur militaire et du renseignement Susaning Tias Kertopati, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré que les menaces hybrides avaient changé la perspective des menaces futures. Dans les opérations militaires autres que la guerre, TNI est également confronté à de nouveaux défis, à savoir participer à la lutte contre les catastrophes non naturelles. La pandémie COVID-19. La pandémie COVID-19 est une menace non militaire qui est différente d'une menace militaire et d'une menace non militaire. Selon lui, la menace des armes nucléaires, des armes chimiques et des armes à rayonnement a également une grande échelle à détecter et à dissuader. Toujours le 5 octobre, le président Joko Widodo a souligné l'importance de fournir des maisons habitables à la communauté. Cela a été transmis par le président lors d'une salutation virtuelle lors de la commémoration de la Journée mondiale de l'habitat 2020 qui s'est tenue dans la ville Surabaya. Le président a estimé que le thème de la commémoration de la Journée mondiale de l'habitat de cette année, le logement pour tous, un avenir urbain meilleur, est un thème très pertinent pour le monde entier.
Thème Housing for All, a better urban future.
Le thème Logement pour tous, un meilleur avenir urbain est le bon programme pour nous tous, pour le monde entier. La maison est un besoin fondamental de toutes les personnes dans le monde. Cette maison renforcera la famille en tant que principal pilier de la force de la nation. Et la maison est un premier rempart contre divers risques pour la santé, y compris la pandémie de COVID-19. Le président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement indonésien travaillait dur pour que chaque citoyen puisse occuper une maison habitable. L'une d'entre elles est le programme d'un million de maisons mis en œuvre depuis 2015. Le président a ajouté que l'objectif de construction d'un million de logements par an avait été dépassé avec succès en 2018, en mettant l'accent sur les communautés à la faible revenu, par l'intermédiaire de l'événement de commémoration de la Journée mondiale de l'habitat 2020, auquel ont participé 193 pays. Le président Joko Widodo espère que les délégués du monde entier pourront partager des idées, échanger des connaissances, des compétences et des expériences, ainsi que forger une coopération et renforcer la collaboration pour accroître la résilience des villes face à la pandémie ainsi que d'autres catastrophes. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts a organisé un festival du climat à Jakarta du 7 au 27 octobre et un pour thème renforcement des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pendant la pandémie COVID-19. À l'ouverture du festival du climat qui se tient virtuellement, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alu Dohong, espère que le Festival du climat pourra accélérer la capacité des populations à s'adapter au changement climatique en Indonésie.
Festival iklim ini kita harapkan banyak inovasi-inovasi baru.
Nous attendons beaucoup de nouvelles innovations, qu'elles soient technologiques ou non, afin d'accélérer notre capacité d'adaptation pour atténuer le changement climatique en Indonésie, afin de contribuer à la maîtrise de la température globale dans un monde dont l'objectif est inférieur à 2 degrés. Le vice-ministre Alu Dohong a ajouté que le Festival du climat 2020 s'est tenu dans des circonstances différentes, ce qui a obligé le ministère de l'Environnement et des Forêts à s'adapter à la technologie en organisant des expositions virtuelles. Dans le cadre du Festival du climat 2020, Le ministère de l'Environnement et des Forêts a également lancé un programme de renforcement des capacités pour les négociateurs indonésiens au niveau mondial. Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a remporté le prix du ministre des Finances de l'année pour l'Est de l'Asie-Pacifique en 2020, décerné par le magazine Global Markets. Le 12 octobre, dans une déclaration à Jakarta, le ministre Sri Mulyani a déclaré que ce titre était une forme de sérieux et de travail acharné de tous les niveaux du ministère des Finances pour faire face à la pandémie de COVID-19 en Indonésie. Elle espère que ce prix déclenchera des améliorations dans la gestion budgétaire en Indonésie face aux défis de la pandémie COVID-19. C'est parce que les défis de l'Indonésie sont encore difficiles et à venir. Le 14 octobre, le directeur général pour les affaires de l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère des Affaires étrangères, Desra Percaya, dans son allocution lors d'un webinaire international commémorant 60 ans de coopération Indonésie-Maroc, a déclaré que l'élan de la célébration de 60 ans de coopération bilatérale cette année est une initiative très importante au milieu de la pandémie de COVID-19. Selon lui, les relations de coopération entre l'Indonésie et le Maroc ont été décrites comme une étroite amitié au niveau communautaire. Il espère que l'Indonésie et le Maroc pourront continuer à travailler ensemble, en particulier pour faire progresser l'islam modéré dans le monde international.
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik RI Maroko dimulai sejak April.
Comme on le sait, les relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Maroc ont commencé le 19 avril 1960 et depuis 60 ans, la coopération entre les deux pays dans divers domaines se déroule bien et se stabilise. L'Indonésie et le Maroc sont également des partenaires stratégiques dans la promotion de l'islam modéré auprès de la communauté internationale. Desra Percaya espère également que l'Indonésie et le Maroc pourront continuer à développer leurs efforts pour promouvoir un islam modéré, contrer la question du radicalisme, éradiquer l'image de l'islam radical et la stigmatisation de l'islamophobie, à la fois sous la forme de coopération bilatérale et dans divers forums de coopération mondiale. Le 15 octobre, le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a annoncé dans un communiqué officiel que le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, la Banque d'Indonésie et le Conseil de coordination des investissements ont lancé une plateforme de données de coopération économique bilatérale intégrée, Dashboard Japan-Indonesia Partnership Launch, JAIPONG, qui s'est tenu virtuellement. Le lancement de JAIPONG est une innovation dans le secteur du commerce qui utilise la technologie numérique. Dashboard JAIPONG devrait devenir un point central unique pour fournir des informations complètes sur diverses opportunités de coopération économique entre l'Indonésie et le Japon. Le ministre Agus Suparmanto a déclaré que par l'intermédiaire de JAIPONG, les données sont affichées de manière actuelle, fiable, précise et opportune. Dashboard JAIPONG, qui est accessible via l'adresse https://www.dashboard.kbritokyo.jp, est un effort pour apporter l'innovation dans la diplomatie économique. Le nom du président Joko Widodo est immortalisé comme un nom de rue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le 19 octobre, l'inauguration du nom de rue président Joko Widodo a été réalisée par le membre et président du bureau exécutif d'Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. L'ambassadeur de l'Indonésie aux Émirats Arabes Unis, Hussein Bagis, a expliqué que la dénomination de rue du président Joko Widodo reflétait les relations étroites entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis, ainsi qu'une forme de respect pour le gouvernement des Émirats Arabes Unis envers le président Joko Widodo dans l'avancement des relations entre les deux pays pendant son mandat à la tête de l'État. Le 24 octobre, le président Joko Widodo a prononcé un discours à l'occasion de l'anniversaire virtuel de l'Association indonésienne des médecins au palais présidentiel de Bogor, Jawa West. Dans ses remarques, le président a apprécié le rôle de l'Association indonésienne des médecins dans l'intégration de tout le potentiel des médecins indonésiens et le développement de la science médicale, y compris l'amélioration de l'état de santé de tous les Indonésiens. Selon le président, la pandémie de COVID-19 a fourni de nombreuses leçons et fait prendre conscience de toutes les lacunes qui existent. Par conséquent, le gouvernement prévoit de procéder à une transformation et à une réforme dans le secteur de la santé. Le président a déclaré que cette étape commençait par des efforts de prévention pour renforcer les capacités des ressources humaines de la santé, développer les hôpitaux ainsi que l'industrie des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en Indonésie.
Diagnostic test, emergency ventilator,
test de diagnostic rapide. Ventilateur d'urgence, laboratoire de biosécurité mobile équipé de PCR, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le diagnostic de COVID-19 et l'application COVID-TRACK pour aider les médecins à surveiller la mobilité des patients et nous accélérons les essais cliniques et la production de masse de vaccins rouges et blancs. Le président Joko Widodo a ajouté que la pandémie de COVID-19 est également devenue un élan pour renforcer la résilience sanitaire et la capacité des services de santé nationaux. À cette occasion, le chef d'État a exprimé ses sincères condoléances aux familles de 136 médecins décédés dans l'exercice de leur fonction de traiter COVID-19. Le 28 octobre, l'Indonésie a commémoré un événement historique survenu il y a 92 ans, à savoir l'engagement de la jeunesse. Les fils et filles indonésiens au deuxième congrès de la jeunesse qui a eu lieu du 27 au 28 octobre 1928 ont lu un engagement prétendant n'avoir qu'un seul pays et une seule nation, la nation indonésienne, et défendant la langue de l'unité, la langue indonésienne. Cet événement historique est devenu un élan pour l'éveil de l'unité et de l'intégrité de la nation indonésienne. Pour cette raison, le ministre de la Religion, Fahrul Razi, à Jakarta, invite les jeunes générations du millénaire à renforcer leur détermination et leur enthousiasme pour la construction du pays, le maintien de l'unité, de la fraternité et de l'harmonie mutuelle en adhérant à la Pancasila et aux enseignements religieux. Le 20 9 octobre, le président Joko Widodo a reçu le secrétaire d'État américain Michael Richard Pompeo au palais Bogor-Jawaves. C'est la deuxième visite de Pompeo après avoir été nominé secrétaire d'État par le président Donald Trump. Après avoir accompagné le président, le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi a déclaré que cette visite avait une signification importante pour le partenariat stratégique entre l'Indonésie et les États-Unis, étant donné la pandémie de COVID-19 qui frappe toujours le monde. Un certain nombre de choses sont devenues le thème de la conversation entre les deux pays. La ministre Retno a déclaré que le président espérait que les États-Unis pourraient étendre le système généralisé de préférence SPG à l'Indonésie. La SPG est une politique américaine visant à alléger les droits d'importation sur les marchandises importées de l'étranger.
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat.
Le président souhaitait également que la coopération de défense avec les États-Unis augmente. Et le président a également déclaré qu'il voulait voir les États-Unis comprendre les intérêts des pays en développement et les intérêts des pays musulmans. En outre, le président a également déclaré que l'Indonésie voulait que les États-Unis comprennent l'Asie du Sud-Est et, avec les pays d'Asie du Sud-Est, instaurer la paix, la stabilité et la coopération dans la région. Cependant, les États-Unis, selon Retno Marsudi, Mike Pompeo a fait part de son engagement à poursuivre le partenariat stratégique global avec l'Indonésie. En outre, l'Indonésie est considérée comme ayant un rôle important dans la région. L'Indonésie est un point d'ancrage pour l'ASEAN. Par conséquent, avec ce grand rôle de l'Indonésie, les États-Unis veulent vraiment établir une meilleure relation avec l'Indonésie. La ministre Retno a ajouté que les États-Unis apprécient le rôle de l'Indonésie dans la question de l'Afghanistan. Selon lui, les États-Unis et l'Indonésie, ainsi qu'un certain nombre de pays, continuent de travailler ensemble pour ramener la paix en Afghanistan. Le 31 octobre, le président Joko Widodo a tenu une réunion pour discuter d'un certain nombre de problèmes mondiaux, en particulier ceux liés à la fraternité entre croyants religieux. Le président, dans un communiqué de presse après avoir rencontré un certain nombre de chefs religieux et le ministre du cabinet avancé indonésien au Palais Merdeka à Jakarta, a déclaré que le peuple indonésien avait condamné les violences survenues à Paris, en France, qui avaient coûté la vie.
Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice.
Premièrement, l'Indonésie condamne fermement les violences qui ont eu lieu à Paris et à Nice et qui ont fait des victimes. Deuxièmement, l'Indonésie condamne également fermement la déclaration du président français qui insulte la religion d'islam, qui a blessé les sentiments des musulmans du monde entier, qui pourrait diviser l'unité entre les croyants religieux dans le monde à un moment où le monde a besoin d'unité pour faire face à la pandémie COVID-19 et la liberté d'expression qui porte atteinte à l'honneur de la chasteté et au caractère sacré des valeurs et symboles religieux ne peut pas du tout être justifiée et doit être stoppée. Associer la religion à des actes de terrorisme est une grave erreur. Le terrorisme est du terrorisme. Les terroristes sont des terroristes. Le terrorisme n'a rien à voir avec aucune religion. Enfin, l'Indonésie invite le monde à donner la priorité à l'unité religieuse et à la tolérance pour construire un monde meilleur. À la même occasion, le ministre de la Coordination des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfoud MD, a souligné le message du président Joko Widodo visant à promouvoir l'unité et la tolérance entre les croyants religieux. Il a souligné que chaque manifestation effectuée dans le pays est liée à la déclaration du président de la France afin qu'elle soit menée de manière ordonnée et non destructive. Il a également souligné qu'aucune partie en Indonésie n'était directement impliquée dans la déclaration du président Macron. Il n'était donc pas normal qu'un dommage se soit produit lorsqu'il a exprimé son opinion.
Nous passons à novembre. Le 5, l'Indonésie a assisté à la 14e réunion des chefs d'état-major de la marine de l'ASEAN qui s'est déroulée virtuellement. À cette occasion, le chef d'état-major de la marine indonésienne, Yudo Margono, au quartier général de la marine à Silangkap, à l'est de Jakarta, a déclaré que l'esprit de centralité de l'ASEAN devait être le principe de la coopération dans la région Indo-Pacifique, notamment dans les aspects de la sécurité maritime et de la coopération navale. La réunion présidée par le commandant de la marine vietnamienne, l'amiral Tran Tan Nhiem, et en présence des chefs d'état-major naval des pays de l'ASEAN, s'est tenue à Hanoï, au Vietnam. Le 10 novembre, le président Joko Widodo a dirigé une cérémonie pour commémorer la journée des zéros au cimetière des zéros de Kalibata à Jakarta. Le président était accompagné du vice-président Ma'ruf Amin. Les activités se déroulaient tout en mettant en œuvre le protocole de prévention sanitaire COVID-19. Après la cérémonie, le président et le vice-président en pèlerinage vers les tombes d'un certain nombre de héros. Le 12, l'Indonésie a participé au 37e sommet de l'ASEAN virtuellement. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel de Bogor, à l'est de Java, a révélé que le sommet qui a déroulé jusqu'au 15 novembre a abouti à 33 documents d'accord. L'un d'entre eux est le cadre de la reprise globale de l'ASEAN. Cet accord contient des stratégies pour surmonter les pandémies, à la fois par la coopération entre les pays de l'ASEAN et avec des partenaires. À la même date, le président Joko Widodo a assisté au 21e sommet ASEAN-Corée du Sud qui s'est tenu virtuellement. À cette occasion, le président a exprimé son optimisme pour le partenariat entre l'ASEAN et la Corée du Sud. Selon le président, la coopération entre les deux n'a pas faibli, mais si le monde est frappé par la pandémie de COVID-19 qui a un impact sur de nombreux secteurs. Le 16 novembre, l'Indonésie a participé à la réunion ministérielle du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, ou APEC. À cette occasion, l'Indonésie, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a encouragé le Forum de l'APEC à fournir un accès au marché mondial pour les micro, petites et moyennes entreprises par l'intégration dans l'économie numérique. La réunion a abouti à une déclaration ministérielle conjointe de l'APEC contenant les résultats des travaux de l'APEC pour 2020, y compris les efforts pour faire face à la pandémie COVID-19, l'utilisation de l'économie et de la technologie numérique, et le soutien politique du programme de développement durable 2030. Le 17 novembre, le ministre indonésien de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, D.C. À cette occasion, Luhut a exprimé l'espoir d'une bonne coopération avec l'Amérique, continuerait de s'améliorer dans la future administration. Luhut Panjaitan a exprimé l'appréciation du président Joko Widodo pour le soutien du président Donald Trump à la coopération entre l'Indonésie et les États-Unis, y compris la fourniture de systèmes généralisés de préférence par le représentant américain au commerce à l'Indonésie. Le 22 novembre, le président Joko Widodo a assisté au sommet du G20 virtuellement depuis le Palais Bogor à l'ouest de Java. Le sommet de 2 jours s'est tenu sous la présidence de l'Arabie Saoudite présidée par le roi Salman et a réuni des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des pays membres du G20, des pays invités et des représentants d'organisations internationales. Selon la ministre des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, à cette occasion, le président Joko Widodo a déclaré l'importance du financement pour le relèvement de la santé.
Yang pertama adalah pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan.
Le premier est l'importance du financement de l'établissement de la santé. Le président a déclaré que le monde ne sera pas en bonne santé sauf tous les pays sont en bonne santé et qu'un vaccin est l'une des munitions. Les vaccins doivent être accessibles et disponibles dans tous les pays sans exception. L'engagement politique des pays du G20 est nécessaire pour mobiliser un financement mondial pour la reprise sanitaire. La deuxième chose qui a besoin de l'attention des pays membres du G20 est l'importance de soutien à la reprise économique mondiale. Entre autres, la question de l'aide à la restructuration de la dette des pays à faible revenu et la flexibilité budgétaire des pays en développement. Le 23, l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, ou BPOM, a organisé des activités de formation dans le domaine de la médecine et de l'alimentation auprès des autorités de régulation palestinienne. L'activité, qui a duré virtuellement jusqu'au 25 novembre, a été ouverte par le chef de l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, Penny Lukito, et a été suivi par le ministre palestinien et de la Santé, Mai Al-Kaila, et le 20 stagiaire du ministère palestinien de la Santé. Pendant ce temps, le ministre palestinien de la Santé a exprimé son appréciation pour la formation en utilisant la technologie de l'information dans un format virtuel pour aider à l'indépendance de la mise en place de l'autorité palestinienne de réglementation des aliments et des médicaments pendant cette pandémie COVID-19. Le 26 novembre, l'Indonésie a participé à la 3e réunion ministérielle du Forum des États archipélagiques et insulaires. À cette occasion, l'Indonésie, représentée par le ministre de Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a invité les nations insulaires et archipélagiques membres du Forum des États archipélagiques et insulaires à s'unir pour faire face aux défis de la pandémie COVID-19. Cette réunion s'est tenue virtuellement a réuni 5 ministres des pays participants, 24 représentants des pays participants et 6 organisations internationales. Nous passons au dernier mois de 2020. Le 3 décembre, le président Joko Widodo, dans son allocution virtuelle lors de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées de Jakarta, a déclaré que la commémoration de la Journée internationale du handicap cette année devrait être un élan pour affirmer sa préoccupation et sa solidarité en jetant des bas solides pour la protection des personnes handicapées. Le président a souligné que le gouvernement s'efforce toujours d'accroître l'égalité et les chances d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux infrastructures accessibles aux personnes handicapées. Aucune personne handicapée ne devrait être laissée pour compte de divers programmes de services fournis par le gouvernement. Toutes les parties des ministères au gouvernement locaux doivent également participer activement à ce projet. Le 6 décembre, le gouvernement indonésien a reçu 1,2 million de doses de vaccins COVID-19 fabriquées par Sinovac. Le président Joko Widodo, dans son discours prononcé virtuellement, a déclaré que le vaccin Sinovac avait été testé cliniquement à Bandung, dans l'ouest de Java, depuis août dernier. Outre 1,2 million de doses de vaccins, le gouvernement essaie encore d'obtenir 1,8 million de doses de vaccins qui arriveront au début de janvier 2021. Outre les vaccins sous forme finie, l'Indonésie achète également des vaccins sous forme de matière première en frac qui seront ensuite transformés par biopharma. Le 9 décembre, des élections régionales simultanées ont lieu dans 269 régions de l'Indonésie. Le président Joko Widodo a déclaré que les élections régionales pendant cette pandémie devaient être démocratiques et devaient garantir la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Le 10 décembre, le 13e Forum de la démocratie de Bali, qui se tenu à Nusa Dua, Bali, a été officiellement inauguré par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Dans sa remarque, le ministre Retno Marsudi a souligné l'importance de maintenir les valeurs et les pratiques démocratiques pendant et après la pandémie de COVID-19. Le 13e Forum de la démocratie de Bali s'est tenu de manière limitée. Ce forum ne peut être suivi que par 50 participants maximum en raison de la pandémie COVID-19. Chers amis, c'était le Kaleidoscope 2020 de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et au revoir.
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. De l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical et cette fois, vous allez écouter une chanson de la province Sumatra occidentale, intitulée Mudiak Arau, chantée par Nurul Fadila Hamid. Chers auditeurs, créée par Ajis Sultan Sati, la chanson Mudiak Arau est également connue sous le nom de Sultan Mudo Song. Cette chanson a été popularisée par Eli Kassim, puis récitée par des musiciens à travers les générations. La chanson Mudiak Arau raconte l'histoire d'une femme qui attend fidèlement l'homme qu'elle aime et qui est absent. Dans le royaume Minang, la plupart des hommes sont partis à l'étranger. Parce que son cœur a été lié, la fille attend fidèlement quelle que soit la condition de l'homme lorsqu'il revient d'outre-mer. Comme indiqué dans les paroles, Inda dape tarago bujang baranak ampe den nanti jo. Si vous n'êtes pas marié pendant que vous êtes célibataire, même si l'homme a déjà 4 enfants, la fille acceptera quand même. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Moudiak Arau chantée par Nurul Fadlillah Hamid. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.